On dialogue.
Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio-VM. Mon invité d'aujourd'hui est Kasereka Kawahirehi, professeur titulaire à la Faculté des arts de l'Université de l'Ottawa. Il a donné le 12 novembre 2020 une conférence à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. L'allocution portait sur les tâches et les responsabilités de la théologie africaine face aux enjeux africains. Des enjeux caractérisés par le paradoxe de la faillite de nombreux États et de l'extrême vitalité du christianisme. Kasereka Kawahirehi, re-bienvenue.
Oui, merci.
On vous a déjà entendu la semaine dernière, parce que le sujet que l'on traite est tellement vaste qu'on ne pouvait pas l'épuiser en une semaine. Je vais passer sur votre présentation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. On a parlé la fois dernière du christianisme, catholicisme ou protestantisme, du christianisme et de la théologie de la période coloniale. Et donc, on parlait d'un christianisme un peu plaqué, n'est-ce pas, qui faisait fi un peu des réalités religieuses et spirituelles africaines. On a ensuite parlé de Vatican II des années 60, de la décolonisation et de cette recherche d'une parole authentiquement africaine, n'est-ce pas ?
Oui.
Et là, maintenant, on a un christianisme en bouillonnement. Il se passe énormément de choses en Afrique, au point de vue chrétien, encore une fois catholique ou protestant. Est-ce qu'il y a eu... Je reviens un peu à Vatican II, hein, qui a commencé avec Jean 23 et terminé avec Paul VI. Paul VI a écrit un message à l'Afrique juste après son encyclique Populorum Progressio. Ce message à l'Afrique mettait vraiment à l'Afrique sur un piédestal, mais lui redonnait une justice dont elle avait besoin.
Oui, on peut le dire ainsi, en effet. Et surtout, celui qui a été le plus marquant, je crois, c'est lors de sa visite à Kampala.
Oui, en Ouganda, oui.
Oui, c'est ça, en Ouganda, où il a rencontré les conférences épiscopales africaines, puis il a fait un grand discours qui est resté dans les annales de l'Église africaine. Oui. Et qu'il disait en fait trois choses qui sont fondamentales. La première, c'était que les Églises africaines, maintenant, vous devez être vos propres missionnaires. C'est-à-dire, on allait, il annonçait la fin de la période missionnaire, justement, du christianisme que nous avons appelé plaqué. Mais une deuxième chose, c'était que vous devez construire une église qui est avant tout catholique. C'est-à-dire qui reconnaît d'abord et avant tout, justement, la tradition de l'église, la doctrine de l'église, et qui, à la fin, au troisième niveau maintenant, au niveau de la manifestation de la foi, là, on accepterait le pluralisme. C'est-à-dire, même doctrine, même tradition, ça c'est intouchable, mais juste au niveau de la manifestation de la foi, il y a un pluralisme possible, selon votre génie culturel, selon ainsi de suite. Et là, en fait, on peut dire qu'il donnait... Il donnait une certaine crédibilité à ceux qui, à partir des années 50, avaient essayé justement de faire ce qu'on appelle la théologie des pierres d'attente et d'adaptation, ou pierres d'attente. Ceux qui cherchaient dans les traditions africaines les choses qui montraient que les Africains attendaient l'évangile, attendaient le christianisme. Donc c'est ça, par exemple, c'est ça qu'ils essayaient de chercher. Et c'est ça qu'il a confirmé un peu cela. Même ici, ce théologien-là de pierre d'attente, parfois essayait d'aller trop loin quand même et d'interroger le message révélé lui-même à la lumière de ce qu'il trouvait dans les traditions africaines. De là est née, par exemple, la Vierge Marie qu'on va appeler il y avait des figures presque mythiques dans les communautés africaines, et on donnait des figures mythiques des femmes, et la Vierge Marie s'identifie à cela. Ce qui est, à mon avis, un peu trop... Il se passe... C'est une sorte de concordisme. Il y a ceci dans le christianisme, nous avons ceci dans notre... Donc ça signifie que nous attendions l'évangile. Mais on ne peut pas... Du point de vue anthropologique, on peut se poser la question, est-ce que les religions africaines traditionnelles n'étaient pas d'abord les systèmes, c'est-à-dire les structures qui devaient se comprendre d'abord avec elles-mêmes avant juste de faire une sorte de congolisme.
Je comprends bien.
Est-ce que l'Afrique, est-ce que ces religions-là attendaient vraiment nécessairement, devaient nécessairement embrasser, être embrassées par le christianisme? Elles avaient peut-être une autre destinée.
Pardonnez-moi, Kasereka Kawahiri, oui. Vous parlez de la théologie des pierres d'attente. Et qu'en est-il d'autres théologies en Afrique? Il y a l'inculturation, il y a la libération, oui. Il y a eu ça en Amérique latine, du reste, c'est encore vivant en Amérique latine. L'Afrique, est-ce que l'Afrique a été, chrétienne en tout cas, a été tenaillée, tiraillée entre plusieurs types de théologies? Parce que là, les pierres d'attente, oui. C'est qu'en bref, les Africains sont des chrétiens qui s'ignorent et ils attendent une révélation pour dire oui. « Ah oui, finalement, on a toujours été chrétiens
bon. ». Oui, tout à fait.
Alors, ça, vous appelez ça concordisme, mais il y a d'autres façons de faire de la théologie en Afrique, non?
Oui, alors après cette théologie des pierres d'attente, là, il y a eu l'inculturation.
Oui.
Ah. Là, on essaie de réconcilier le christianisme avec les cultures locales, mais oui. Surtout soumettre les données révélées à un nouvel examen à partir des réalités propres à chaque grand ensemble socioculturel, le but étant de structurer la foi chrétienne à partir de l'expérience religieuse africaine. En fait, l'inculturation a comme principe celui-ci: aucune culture n'a le monopole de Dieu, tout voilà. Comme aucune culture n'a le monopole de l'expérience humaine.
Mm-hmm. Ouais, c'est... Ça, Paul VI... Mais Paul VI le pensait déjà. Je veux dire, Paul VI parlait même d'une unité dans la pensée africaine.
Oui, une unité, ben, là, il y a beaucoup, il y a des débats, justement, là. Ah. C'est qu'on a eu l'impression que, avec l'expérience coloniale, il y avait d'un côté l'Occident, où oui. L'Europe devenait les missionnaires, et pour contrer, justement, cette force-là, certains anthropologues, même théologiens ou philosophes, disent que les premiers intellectuels, les théologiens africains, ont construit justement une sorte d'unité.
Comme Cheikh Anta Diop, par exemple?
Oui, Cheikh Anta Diop, du point de vue, bon, là, ça peut dire de la philosophie de l'histoire, mais tout du point fait. De vue aussi de la théologie même. Les gens comme Vincent Moulago,
oui.
Vincent Moulago, par exemple, qui est un des premiers théologiens congolais, justement, lui, il va même affirmer qu'en Afrique, il y avait un monothéisme qui existait.
Ah, déjà?
Mais justement, c'est remis en question par certaines figures de la pensée africaine qui disent que ça correspondait à cette... c'était la manière de faire face à l'Occident. C'était dit, oui, vous avez monothéisme, nous avions déjà aussi un monothéisme.
Je comprends.
Ce qui permettait encore une fois de dire « Oui, nous attendions depuis très longtemps, nous connaissions oui. déjà Dieu.
» on revient à la case départ. Dites-moi, Kasereka Kawahiri, il y a une théologie, ou il y a eu en tout cas en Afrique, une théologie de la libération, mais qui n'est pas un copier-coller de ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Amérique latine.
Oui, tout à fait. Il y a une théologie de la libération qui n'est pas copier-coller, parce qu'il y a des différences fondamentales. Disons, dans la théologie de la libération africaine, on mettra l'accent sur d'abord un concept qui a été développé par le père jésuite, hélas, qu'on a tué autour des années 90, c'est celui de la pauvreté anthropologique.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça signifie en fait que par la colonisation, l'Africain a été vidé de tout son être. Il a perdu toute la capacité de créer, capacité d'imaginer. Tout cela a été comme éliminé. Alors, la libération ça consiste à reconnaître la déshumanisation subie par les Africains à travers les expériences douloureuses de l'histoire, ici l'esclavage, la colonisation, et puis ainsi de suite. Mmh. Alors, et puis, le Christ sera alors perçu comme l'incarnation de toutes les forces de vie contre les puissances de la mort. Mmh. Il est le libérateur qui restaure l'homme dans sa capacité de vaincre les pouvoirs de la mort pour le triomphe de la vraie vie.
Continuez, c'est intéressant.
Il y a aussi du côté de chez le père Mouvin, qui c'est vraiment au niveau de la culture.
Oui.
C'est là qu'il faut renouveler. Il y a du côté de Jean-Marc Ella, qui va quand même dans un texte fondamental premier où il parle de l'assistance à la libération.
Oui.
Il faut que les Africains arrivent justement à vivre de leur propre capacité de créer, au lieu d'attendre tout le temps du il y a, on pourrait trouver aussi chez Ebussi, justement, qui lui va insister surtout sur le fait que l'Africain, justement, devrait faire en sorte que la foi de l'homme africain n'apparaisse pas comme la théâtralisation de sa subordination au monde occidental. Voilà ce qu'il faut combattre.
Ça veut dire, pardonnez-moi, Kasereka Kawahiri, mais ça demande de devenir adulte, de cesser d'être tout le temps la victime de l'histoire, la victime d'un blanc, et de dire que nous aussi, nous avons péché. Si on veut grandir dans notre africanité, il faut qu'on prenne une part de responsabilité morale dans notre histoire, dans ce qui nous est arrivé aussi, alors.
Oui, en fait, c'est une manière de l'assumer, parce qu'il dit... Je cite de mémoire, par exemple, là, il dit qu'il faut redonner en fait à l'Africain le moyen de faire un acte qui assume son être dans le monde et de reconnaître le nom de Dieu. Dire sa foi dans le langage de son histoire et par là, justement, mettre l'accent sur le politique. Et c'est dire sa foi dans le langage de son histoire, ça signifie pour l'Africain retrouver en fait dépasser les discontinuités. Parce que la colonisation disait, voilà, maintenant, certains disaient que l'histoire commence avec la colonisation. Non, il faut retrouver les continuités et que l'Africain puisse justement, à partir même de ce par quoi il était, par lui-même, et non pas ce qu'il est devenu par la colonisation, à partir de ce qu'il était par lui-même, pour se reconstruire et dire sa foi, comme c'est pensé, à travers toutes ces grandes expériences de son histoire, tout simplement.
Mais attendez une seconde, Kasere Kawahiri. Oui. Je veux dire, comment vous dire, la pensée africaine, déjà pour commencer, la pensée chrétienne a été systématisée, dogmatisée, intellectualisée, etc., et promue, comme une pensée dualiste du corps et de l'esprit. En Afrique, il n'y a pas le dualisme, c'est tout l'homme. Quand il y a le Muntu, je pense, c'est un terme bantou qui veut dire l'homme dans sa totalité, il n'y a pas le sacré, le profane, il n'y a pas la vie publique, la vie privée, il n'y a pas ces différences dualistes qui caractérisent l'Occident et d'autres aires culturelles aussi dans le monde. Ça, c'est un gros problème. Je veux dire, et d'un autre côté, vous avez le colonialisme qui arrive, vous ne pouvez pas simplement le rejeter pour arriver à une africanité pure. Comment allez-vous faire pour digérer, métaboliser ce message chrétien qui a été systématisé de façon dualiste, alors que l'Afrique, elle, n'est pas dualiste. Vous avez été colonisé par des puissances dualistes.
Oui, mais là, c'est toute la question, je crois, fondamentale à la théologie africaine, là.
Oui, oui.
Parce qu'on peut dire, en fait, que jusque-là, bon, comme le disait le pape Paul VI, qui disait quand même qu'il y a une doctrine qui est essentielle, et ainsi de suite, c'est-à-dire, en fait, la question, et aussi, lui disait justement qu'il faut revenir au christianisme en amont des dogmes.
Ça veut dire qu'il faut revenir vraiment au jour 1.
Oui, mais est-ce possible?
C'est ça, c'est la question que je vais vous poser.
Le christianisme, nous l'avons reçu déjà digéré par une culture, la culture occidentale.
C'est ça, exact.
C'est fondamental. Alors, ça signifie en fait que pour l'Africain, je prends une figure peut-être de qui de Boussy qui dit nous devons en fait nous revenir aussi au modèle des grands maîtres du Moyen-Âge, comme Saint Thomas d'Aquin.
Ah, pourquoi donc?
Digérer ce que nous avons reçu, pouvoir le maîtriser, mais en même temps nous approprier tout ce qui est comme savoir dans le monde, mais après le dire encore une fois avec le langage de notre histoire, de nos continuités historiques. Mais là, il y a toujours un problème, justement, là. Parce que Ebussi, comme vous le savez, il était jésuite, il a fini par claquer la porte à 81. Après avoir écrit son livre « Christianisme sans fétiche », où il montrait justement que le christianisme était devenu une sorte aussi de fétiche, là, et que ça ne permettait pas aux Africains de s'épanouir.
Vous parlez vous parlez de Fabien Boulaga Ebussi, que vous avez d'ailleurs connu. C'était un maître pour vous. Et Jean-Marc Ella, c'était un autre, deux théologiens camerounais. Hein.
Oui. Comme Angelbert Vingauchier était camerounais, justement, les trois.
En plus, d'accord, oui.
Les trois qui ont été des figures importantes de la pensée africaine, on pourrait dire, parce qu'ils naviguent entre plusieurs domaines, pratiquement, là. Donc, comme vous disiez, là, cette question. question du fait que chez nous, il y a une sorte de... L'homme, c'est un, hein, alors qu'ailleurs, il y a... Ça, je crois que c'est là, c'est là qu'il y a une des sources, pour, selon plusieurs théologiens justement, de la crise du christianisme en Afrique.
C'est que... Attendez, une crise, mais le christianisme est en pleine explosion chez vous, il y a une vitalité extraordinaire.
Oui, mais justement, il y a une vitalité extraordinaire, mais comment ce christianisme qui annonce la vie en abondance fait-il corps avec une société où il y a la famine? Le christianisme qui est le lieu justement de l'amour avec le prochain, de la communion, dans les États justement qui sont aux prises avec des conflits ethniques.
Voilà.
C'est un problème sérieux. Alors que justement, les conflits ethniques, même maintenant on voit en Afrique certaines régions comme le Nigeria, où il y a une sorte de conflits de religion, même si on peut analyser ça autrement.
Oui, oui, de façon économique, oui.
C'est qu'on n'a pas pu, le christianisme n'a pas pu assumer la logique de vie existentielle qui existait avant, une religion qui embrassait le tout de l'homme. Et là, même les évêques induisent les chrétiens en erreur, à mon avis.
Pourquoi?
Quand ils disent, reprenons le discours, c'est le discours officiel justement, où on définit l'Église, on dit la mission confiée à l'Église, mais ni d'ordre politique, ni d'ordre économique ou social, mais d'ordre religieux.
Oui.
Si elle n'est ni d'ordre religieux, alors là, les gens vont prendre justement les sacrements. Les sacrements, vous les faites une fois le mois, même une fois l'année. Une fois que vous avez fait votre culte religieux, vous entrez dans le profane. Et là, vous pouvez être dans le profane. Là, c'est le profane. Vous divisez les deux. Du coup, on peut être très bon chrétien quand on va à l'église. Et quand on est en société, justement, se comporter comme n'importe qui, tout simplement.
Alors, si je comprends, pardonnez-moi, Kassere Kakawahiri, je suis pas sûr de bien vous saisir. On parle de la question de... Bon, la pensée africaine, elle est une, elle n'est pas dualiste, contrairement à la pensée occidentale, et ça a donc une répercussion sur l'articulation du christianisme, catholique ou protestant, peu importe, en Afrique, et il y a la tentation, et comment vous dire, beaucoup de théologiens africains, on dirait que n'ont pas de prise sur la vie réelle, alors ils vont se contenter de faire de la théologie, de dire que Jésus a dit ci, l'Église dit ça, etc. Mais ce que vous déplorez, si je vous comprends bien, c'est-à-dire qu'on est dans un... on compartimente la vie africaine.
Oui, en fait, et cela justement est arrivé avec le christianisme, qui fait la part entre le sacré et le profane.
Voilà.
Le religieux et le séculier, là. C'est-à-dire, en fait, que les théologiens africains, ils ont aussi un problème, celui-ci, c'est la plupart d'entre eux, en fait, même en étant en Afrique, sont formés par la théologie occidentale.
Voilà.
Qui est une théologie d'un monde sécularisé.
Voilà.
Et c'est cette même théologie que parfois on tente de pratiquer en Afrique.
Voilà.
Alors qu'en Afrique, justement, Dieu n'a pas encore... Dieu est encore présent dans toutes les... Il est encore... C'est encore la sécularisation pratiquement là. Les États africains ont beau dire qu'ils sont des États laïques. Mm-hmm. Quand vous voyez le plus près, vous savez que, par exemple, au Kenya ou partout là, il y a des gens pour se faire élire, doivent d'abord faire être membre d'une église.
Ah bon?
Pour ce que je dis. Mais tout à fait, oui. Il y a au Congo, Mobutu, qui devait s'appuyer parfois sur le kimbanguisme, par exemple.
Sur le quoi? Vous avez dit le kimbanguisme?
Oui.
C'est quoi ça?
Le prophète Timo Kimbangu.
Ah d'accord, qui était décédé en détention en 1951, je pense,
oui,
non?
Exact, oui.
Parfait, oui.
Oui. Donc, il y a, comme ça, en Afrique, c'est très fréquent. C'est que pour se faire élire, le président, bon, c'est pas, il se prépare, il se fait baptiser ou je ne sais pas quoi, il va dire qu'il a reçu une mission de Dieu, et ainsi de suite. Donc, on a beau dire état laïque, ça ne marche pas. Et c'est ça que je crois que ce qu'il faudrait, et c'est peut-être cela que les gens de la théologie de la reconstruction et de la théologie politique essayent peut-être de résoudre comme problème. Dire, eh bien, l'Église ne doit pas se limiter au sacrement, à la messe du dimanche, elle doit aller partout où on est en train d'imaginer l'Afrique de demain. Pour justement, il se met aussi les valeurs chrétiennes.
Mais alors, pardonnez-moi, Kasereka Kavohirhi, l'Église, je me limite maintenant au catholicisme, le protestantisme, il y a tellement de branches que finalement on peut en créer d'autres. Le catholicisme est un, il repose sur l'Écriture, il repose sur le magistère et sur la tradition. La tradition, elle est vieille de 2000 ans. Comment pouvez-vous, vous, reconstruire l'imaginaire africain aujourd'hui à partir d'une tradition qui, elle, je ne sais pas moi, elle est universalisable jusqu'à un certain point, mais vous allez faire un tri dans la tradition, vous allez choisir saint Thomas d'Aquin puis oublier les autres. Et à un moment donné, l'Église, le catholicisme se présente comme quelque chose auquel on adhère complètement ou auquel on n'adhère pas. Comment est-ce que là, cette pensée africaine, cette sensibilité, cette façon de voir le monde qui est une et non pas dualiste, comment est-ce qu'elle peut maintenir cette idée-là d'être au monde africain, tout en appartenant à l'Église catholique, pour les catholiques africains en tout cas. Pour moi, c'est la quadrature du cercle.
Tout à fait, là, il y a un parce que vous me dites, voilà, il y a une tradition vieille de 2000 ans, mais par exemple, Jean-Marc Calat dit très clairement dans son dernier livre-là, le Repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère. Il dit très clairement que nous, il y a dans des éléments de la tradition justement chrétienne qui dévalorise l'Africain. Il y a des textes de la tradition, et c'est vrai qu'il y a des textes de Pape au 15e, 16e siècle là, qui ont valorisé l'esclavage. Mm-hmm. Simplement. Là, on dit, mais ça, il ne faut pas nous approprier ça comme notre.
Ça, évidemment, oui, on comprend.
Ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tradition, peut-être qu'il faut aussi, pour prendre terme à vogue, décoloniser. Mm-hmm. Et il faudrait décoloniser tout simplement là. Parce que le langage du christianisme, c'est le langage de son temps. Le christianisme assume le langage. Certaines philosophies sont, on le voit, le parallélisme entre philosophie et théologie, ça marche parfois ensemble là.
Je comprends, mais attendez une seconde, mais Kasereka Kavohirhi, en invoquant l'esclavage, on ne parle pas de la tradition. Tel pape a dit quelque chose sur l'esclavage, mais ça ne fait pas partie de la tradition ni du magistère de l'Église. Il y a de la tradition, elle est intellectuelle, c'est une pratique, ce sont des dogmes. Il y a tout cela. On ne peut pas juste aller dans cette tradition comme au supermarché et prendre ce qui nous convient.
Mais justement, même c'est là qu'il y a le problème, justement. Moi, je crois qu'un des problèmes du christianisme, là, c'est de ne pas accepter qu'il y ait justement plusieurs traditions.
Ah, ça, c'est la grande question.
Il faudra accepter aller dans ce sens-là, alors qu'il y a plusieurs traditions. Mais vous partez de la Grèce avec Platon, Aristote, vous construisez une théologie, mais les Africains pourraient partir de notre lieu. Peut-être qu'on se rencontrera à la fin.
Alors justement, c'est ça la question de l'unité. Et quelle est, comment dirais-je, parce que évidemment, Platon, Aristote ne résument pas Dieu, si vous voulez. Personne ne résume Dieu, personne ne le possède, je peux comprendre. Pour un chrétien, le Christ...
Mais la théologie quand même, on peut dire, à partir de saint Thomas d'Aquin, c'est quand même beaucoup de ces deux maîtres-là.
Oui.
Oui, c'est quand même beaucoup de ces deux maîtres-là.
Oui.
Alors, c'est ça que j'ai dit, on ne peut pas, je ne limite pas la théologie africaine, la tradition à saint Thomas, mais j'ai dit, chez saint Thomas, on voit beaucoup du platonisme d'Aristote, je ne sais pas qui le développe, et puis avec son génie propre. Alors, il faudrait reconnaître qu'il y a d'autres traditions qui existent, et à partir desquelles on peut justement s'approprier l'évangile.
Kasereka Kavohirhi, il nous reste 2 minutes, c'est passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Qu'est-ce que l'homme africain, tel que vous le rêvez vous-même et d'autres de vos collègues et amis, et dans les milieux théologiques africains, qu'est-ce que cet homme africain peut offrir au monde, au christianisme, au catholicisme ?
Au christianisme, au catholicisme.
Quelle est la voie particulière de l'Afrique dont le monde a besoin ?
Je dirais, aujourd'hui...
En une minute et demie, hein.
Oui, nous sommes dans un monde, je peux dire, dans un monde justement où il y a, aujourd'hui, on construit des murs, on fait des murs en béton ou en cheval, et ainsi de suite. Uh-huh. Donc, il y a quand même une part qui patrouille de la culture africaine, c'est l'hospitalité.
Mm-hmm.
L'accueil de l'autre.
Oui, oui.
Qui faisait que même, par exemple, et là c'est un autre élément, c'est le fait qu'en Afrique, en fait, nous n'avons jamais connu, avant la colonisation et le christianisme, nous n'avons jamais connu une guerre qui n'était pas la religion.
Ah bon?
Non, ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Oui. Donc là, par exemple, c'est très important, là. C'est que nous pouvons voir justement comment, justement, alors qu'il y avait beaucoup de religions selon les ethnies, mais il n'y a jamais eu de conflit qui a comme base la religion. Non.
Vraiment?
Oui. Il n'y en a jamais eu avant la colonisation et avec le christianisme.
Mm-hmm. Il y a eu quand même des guerres en Afrique. Je veux dire, ce n'est pas un paradis. Ça n'a jamais été un paradis comme nulle part ailleurs.
Bien sûr, mais pas des guerres qui ont comme mobile la religion.
Je comprends bien.
Oui, ça c'est très important, je crois.
Donc, l'hospitalité serait un des messages fondamentaux de l'Afrique au monde, en tout cas pour le catholicisme et le christianisme aussi. Kasereka Kabuhiri, il faut malheureusement terminer parce qu'on a une publicité à passer avant l'heure. Je vous remercie infiniment pour ces propos sur la théologie africaine. Merci beaucoup pour ces deux demi-heures passionnantes qu'on a pu passer avec vous. À une prochaine.
Ok, merci à vous.
Voilà, je rappelle, Kasereka Kabuhiri, que vous êtes professeur titulaire à la Faculté des Arts de l'Université d'Ottawa. Le 12 novembre 2020, vous donniez une conférence à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, une allocution qui portait sur les tâches et les responsabilités de la théologie africaine face aux enjeux eux-mêmes africains. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.